Bonjour et bienvenue sur le podcast de douceur financière. Oh wow! On entame la fin juillet. On est dans la dernière semaine de juillet. Et j'avais le goût de vous faire un épisode solo avant le début officiel de la saison 5. Ah! Je regardais tout ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, j'ai pris un break. J'ai complètement arrêté les enregistrements d'épisodes de podcast dans les 3 derniers mois. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et j'avais tellement le goût de prendre le micro, vous partager tout ça. Pour de vrai, j'ai dû vraiment me parler et respecter mon engagement envers moi-même pour ne pas prendre mon micro à peu près 75 fois dans cette pause nécessaire de 3 mois. J'ai vécu des grandes contractions, j'ai vécu des points de rupture, j'ai vécu la démolition de mon ego. J'ai terminé des boucles qui devaient se terminer de trauma. J'ai bouclé tellement de boucles. J'ai encore des boucles à boucler. J'ai communiqué des choses que jamais j'aurais cru avoir le courage de communiquer. Bref, ce fut un 3 mois extrêmement enrichissant. Et là, je pars cet épisode solo, en sachant même pas où ça va m'amener. J'ai aucune note, aucune structure. Ça fait 15 minutes que je suis assise devant mon micro, avec la trouille dans le ventre. Et je me dis, c'est comme quand ça fait super longtemps que t'as pas vu une super amie. Et que tu te dis, mais là, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas par où commencer. Puis t'as juste le goût de la prendre dans tes bras, tu sais, puis de dire, hey, je suis là. T'sais, allô, mon ami. Fait que j'avais le goût de vous donner un câlin en commençant. Vous dire que cette pause était plus que nécessaire. Ce moment de stillness, je sais pas trop comment le traduire en français. Mais c'est un moment où j'étais complètement en pause, mais en observation. J'étais pas dans un lâcher-prise, j'étais pas dans un état où je me faisais, tu sais, where I surrender. J'étais pas en train de vivre un lâcher-prise, au contraire, j'étais simplement immobile. Et à la place de parler, tout ce que j'ai fait, c'est observer, prendre conscience et écouter. Et ça, c'est un exercice qu'on fait très peu souvent sur une longue période de temps. Il a fallu que je sois douce avec moi parce que 2-3 fois sur Instagram, ça a été plus fort que moi. J'ai dû faire des stories au sujet de la situation actuelle parce que c'était plus fort que moi. C'est tout. Mon âme me criait de le dire. Mon ego en a mangé toute une, mais mon âme, elle est de plus en plus connectée à moi. En fait, j'enlève tous les voiles qui me déconnectent présentement de mon âme. Et je me rends compte que trop souvent, on essaie d'être spirituel. On veut tellement être spirituel. On veut tellement faire tout bien. Et faire tous les rituels, faire tout. On est toujours dans le faire, hein. Mais quand on est dans le stillness, t'sais, dans vraiment l'arrêt, ouais, de s'arrêter et d'observer, de prendre conscience, d'intégrer et de faire des petites actions, parce que l'arrêt permet de faire toutes les petites actions qu'on ne pouvait pas faire parce que notre cerveau était complètement embrumé, emboucané par le brouhaha quotidien. C'est comme si on devenait sourd dans le brouhaha quotidien. Et si on ne prend pas ce moment-là d'arrêt, ce moment de stillness-là, ce moment d'observation, eh bien, il y a des choses qui passent parce que ça va vite. Je ne sais pas comment est votre relation présentement avec le temps, l'espace-temps. Mais les timelines, ils vont vite en titi. L'énergie est dense au Québec. Je ne sais pas dans quel coin de pays vous êtes présentement. Mais l'énergie est extrêmement dense ici au Québec. On est chanceux parce que nous, on est en Estrie, à Magog. Et c'est moins dense. Je dirais qu'à Montréal ou à Québec, Lévis, Bellechasse. On est allé voir les parents à mon chum, à Bellechasse. On est allé à Québec, à Lévis, à Montréal. Et l'énergie, elle est tellement dense. C'est une énergie de peur. C'est impressionnant. Et ce moment d'arrêt complet m'a permis de faire des choix, de prendre des décisions extrêmement éclairées et réfléchies. Mais pas réfléchies avec mon ego ou mon mental. C'est aucunement des décisions qui sont rationnelles. Ce sont des décisions qui sont basées sur mon âme. Oh mon Dieu, j'ai un bâton de... Oh, d'émotion! Hey, ce sont vraiment des décisions basées sur ce que mon âme me crie depuis toute ma vie, mais que je réprime à grands coups de pelle et en grands coups de massue. Parce que ce que notre âme veut, c'est tellement simple. Mais notre ego et notre mental, tout le rationnel, va tout simplement réprimer ça parce que c'est pas sécuritaire. Et j'ai décidé, dans un choix extrêmement conscient, et un choix qui peut s'avérer extrêmement périlleux quand on est parent. Je me suis posé la question sur la relation entre la sécurité et la liberté. Et c'est une question qu'aucun parent veut se poser. Parce que la liberté de nos enfants s'arrête au moment où on a peur pour leur sécurité. Mes enfants sont mes plus grands guides, mes plus grands... Oh, ils me font faire des apprentissages quantiques, ces enfants. C'est merveilleux. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que je leur mets un casque? On va y aller très simple. Parce que j'ai peur que s'ils tombent, ils se fassent une commotion cérébrale. Donc je ne leur fais pas confiance dans leurs aptitudes. Si si les bottines suivent les babines, quelle expression magnifique! Dans tout le développement personnel que j'ai fait, dans toute la spiritualité que j'ai faite, c'est complètement illogique de mettre un casque à mes enfants quand ils font du vélo ou de la trottinette ou peu importe quel sport. Et là, tu vas me dire, franchement, t'es donc bien une mère irresponsable. Mais là, je vous demande juste de ne pas vous arrêter sur le fait que je suis une mère irresponsable, mais bien de regarder la réflexion. Parce que la réflexion, elle est puissante. Et la réflexion démontre vraiment bien que, en spiritualité, en développement personnel, nos babines ne suivent pas les bottines. Donc, c'est comme... Faites que ce que je dis, pas ce que je fais. Si ma croyance, qui est ma croyance la plus profonde, c'est qu'on crée tous notre réalité. Mon enfant, que je lui mette un casque ou pas, s'il apprend un accident, il va l'avoir parce que c'est pour mon développement personnel. C'était dans notre lignée, dans notre chemin de vie. Alors, je pense pas qu'il y a besoin de casque si je suis un être spirituel extrêmement aligné avec mon âme et mon cœur. Tout ce qui est sécuritaire pour mon enfant, c'est-à-dire un banc de voiture, un casque, un gilet de sauvetage, tout le « attention, tu vas te faire mal », tous ces trucs-là que je dis à mon enfant, je devrais juste me taire. Parce que mon enfant, s'il a à se blesser, peu importe la sécurité que je vais mettre alentour de lui, il va se blesser quand même parce que j'ai co-créé ce moment-là. Et je suis 100% responsable des blessures de mes enfants. Parce que je me rends compte que tous les moments où mes enfants se sont blessés, c'était pour que je m'arrête. Et quand Léonore s'est brûlé les fesses au troisième degré, je sais exactement pourquoi ça s'est passé. Je devais tout arrêter. Et je devais aussi prendre entière responsabilité de toutes mes actions, tous mes échecs et tout ce qui se passait dans ma vie. Et j'ai pris entière responsabilité. Puis après ça, j'ai juste parlé avec mes trois enfants. Parce que oui, je leur parle de trucs de même. Puis je parle avec leur âme. Puis c'est pas toujours parler avec des mots. Hein. Vous pouvez faire de la télépathie avec vos enfants. Vous pouvez parler à leur âme, âme à âme, sans avoir à mettre des paroles. Puis j'ai dit, tu sais, vous n'avez plus besoin de tomber malade ou de vous blesser pour que maman comprenne. Je vous promets maintenant que j'ai écouté mon âme. J'ai mis fin à cette co-création. J'ai dit, si on reste blessé, c'est leur création maintenant. Ça ne sera plus une co-création avec maman. Et on a mis vraiment un terme à tout ça parce que ça n'a juste pas de sens. Puis, c'est à partir du moment où Léo s'est brûlé. Toutes les gens de ma famille m'ont dit, ben là, franchement, il était tout nu, il dansait proche d'un feu. Puis, mes enfants ne se sont jamais blessés dans la vie. Parce que je leur dis pas, attention, fais pas ça. Mais environ une seconde avant que Léo se colle les fesses sur le foyer, je peux pas croire que cette phrase est sortie de ma bouche. Mais je lui dis, attention Léo, ne mets pas tes fesses sur le feu. Et une seconde après, il collait ses fesses sur le feu en me regardant avec son plus grand sourire, qui, une microseconde plus tard, s'est transformé dans le plus grand cri de sa vie, dans la plus grande douleur de sa vie. Et ce moment-là était un très grand apprentissage pour moi. Et je me suis dit, si à ce moment-là, je me serais juste tue, genre ta gueule, Jen, tais-toi, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que je l'ai clairement manifesté. Si on croit en la loi de l'attraction et de la manifestation, alors pourquoi est-ce que on a besoin de sécurité? Autant de la sécurité financière que de la sécurité physique. Parce qu'on s'entend. Si on prend une assurance vie, et je suis la première qui a encore une assurance vie, c'est parce qu'on a peur de mourir. Parce que si on n'a pas peur de mourir, ben on ne prendrait pas d'assurance vie. Et si je ne dis pas d'aller enlever vos assurances vie, je dis juste, c'est une réflexion que j'ai présentement. Je vous amène dans cette réflexion-là parce que c'est très intéressant. Puis je me suis dit, pourquoi t'as une assurance vie? Je me dis, ouais, si je meurs, je veux que mes enfants puis Alexis soient corrects. Ouais, mais à la place de payer pour une assurance vie, pourquoi tu crées pas une vie full abondante et tu sors de ce système-là? Parce que, en fait, pourquoi on a une assurance vie? C'est souvent pour couvrir nos dettes. C'est crissement égoïste. C'est purement égoïste. C'est toutes tes dettes que tu as eues toute ta vie. Tu vas les rembourser. Fait que c'est une assurance système capitaliste. L'assurance vie. Fait que c'est pour permettre aux gens de. Ben, tu sais, tu claires toutes les dettes, puis après ça, bon, il reste un petit peu d'argent pour tout le monde. Mais à la place, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des entreprises prospères et qu'on lègue pas cette entreprise prospère à nos enfants plutôt que mettre de l'argent dans des assurances pour manifester en fait notre mort? Et là, j'ai poussé la réflexion encore plus loin. Je me suis dit, ouais, mais Geneviève, pourquoi? T'as besoin de te sentir en sécurité. C'est quoi ce besoin-là? Et là, j'ai vraiment énuméré toutes les parties de ma vie où j'avais un besoin de me sentir en sécurité. Et je me suis rendu compte que je redonnais mon pouvoir aux autres. Je redonnais mon pouvoir, admettons, à la police, admettons, aux assurances, à la porte qui va être barrée, à la ceinture de sécurité, à la ceinture de flottaison. Puis je pense qu'au niveau de la ceinture de flottaison, ce qui m'a fait le plus sourire, puis c'est vraiment triste comme situation, mais vous allez comprendre le parallèle, c'est que en paddleboard, on s'est fait avertir, moi, Isa Nontel et Laurie Cyr, par la police marine, qu'on n'avait pas notre gilet de sauvetage en paddleboard. Fait qu'on pouvait avoir une amende de, je pense, plus de 270 $. Puis moi, tu sais, j'étais comme, ouf, ouais, il y a un petit côté de moi qui était comme, ça va, hein, la Gestapo. Et juste après, le lendemain, je lis un article. Des faits divers, qu'un jeune homme est mort, noyé, paddleboard, il avait sa veste de sécurité, et son chien aussi est mort, il avait sa veste de sécurité. Je me suis dit, parce que moi, ma plus grande peur, c'est que mes enfants meurent noyés. Dans la vie, je suis extrêmement relaxe comme mère. Sauf proche d'un plan d'eau. J'ai été sauveteur dans ma vie, sauveteur océanique, sauveteur plage, sauveteur piscine. J'ai passé ma vie dans l'eau. J'étais une ancienne nageuse synchronisée, je donnais des cours d'aquaforme, des cours de natation. J'étais coach de natation, coach de nage synchronisée. J'ai passé ma vie dans les piscines jusqu'à à peu près 22 ans. C'est fou, j'ai passé ma vie dans les piscines jusqu'à temps que ma mère meure. Et ouais, de 12 ans à 22 ans, j'ai eu 10 ans où je passais 60 heures, je pense, par semaine dans les piscines. Genre, mon parfum, c'était du chlore. Mais ma peur, c'est d'aller, de devoir plonger puis d'aller chercher mes enfants dans le fond du lac. Vraiment. C'est une de mes grandes peurs parce que j'ai tellement été chercher d'enfants dans le fond d'une piscine, là. Dans le fond des lacs, dans le fond des océans, des adultes aussi. J'ai réanimé des gens. C'est intense, là, être sauveteur, là. J'ai aussi eu des bobos plaster à l'infini, là. Il y a tellement d'enfants qui se scrapent les genoux sur le bord de béton. Mais. Et des échardes. Mais. Je me suis dit, OK, t'as peur de quoi au juste? En fait, c'est que je fais pas confiance à mes enfants. Parce que si j'éduque convenablement mes enfants, que je leur explique quand même la conséquence de ce qui peut se passer s'ils courent sur le quai et qu'ils tombent dans le lac. La conséquence, c'est que ils savent pas encore nager sans leur gilet de sauvetage en ce moment, mes enfants. Ils nagent très très bien avec leur petite flotte, comme on dit, leur petit gilet. Mais ils font la roche quand ils n'ont pas leur gilet. Puis, Nous, on habite à côté d'un lac, hein, donc on est vraiment souvent au lac. À la plage, moi, ça me dérange vraiment pas qu'ils soient sans gilet de sauvetage. Ils sont très, très bons, puis je leur fais 100% confiance, vraiment. Où je fais pas confiance, c'est s'ils touchent pas dans le fond de l'eau. Parce que 2 ans et demi, 4 ans, c'est ça. Gaspard, je pense qu'il s'en sortirait, mais Léo, il est pas encore super. Et je me suis dit, mais de quoi as-tu peur, au juste, Geneviève? T'as peur que tes enfants meurent. Mais pourquoi en ce moment tu leur transfères ton stress et tu leur crées des traumas au niveau de l'eau? Parce que moi, c'est ma plus grande peur. C'est où? C'est l'endroit, selon moi, qui est le moins sécuritaire sur la Terre. C'est un quai ou un bateau. Parce que si tu tombes dans l'eau et tu donnes deal, si tu fais la roche, c'est long aller te chercher dans le fond d'un lac, là. Ça se pourrait que je te retrouve pas. C'est pas comme un fond de piscine, là, tu sais. Puis, je me suis dit, arrête d'avoir peur. Fais-leur confiance. Ils sont extrêmement intelligents, tes enfants. Fais juste les conscientiser que s'ils tombent dans l'eau, ils courent, mais ils n'ont pas leur gilet. Puis savez-vous quoi? Depuis ce moment-là, je leur ai plus jamais demandé de mettre leur gilet de sauvetage. Ils le mettent eux-mêmes. Ils ont compris que c'était pour eux. Et j'ai pas chialé aucune fois. Je me suis juste assise et je leur ai exposé le risque. Et eux, ensuite, ils ont pris une décision. Et ça, je trouve ça très important, c'est de responsabiliser très, très rapidement nos enfants et d'arrêter d'être la Gestapo de la sécurité. Chaque humain, chaque être humain est souverain de son existence. Chaque être humain devrait être responsable de sa vie. Quand je prends un verre d'alcool, je sais que c'est pas bon pour mon corps. Je suis 100% responsable de ma vie. Et de se déresponsabiliser et de redonner notre pouvoir aux autres, aux autorités, à la police, au gouvernement, à la santé publique, c'est en fait de ne pas être souverain. Vous êtes 100% responsable de ce que vous faites avec votre corps. Et votre sécurité ne dépend pas des actions des autres. Et c'est extrêmement difficile quand on est des êtres spirituels qui font du développement personnel, tout ça. Et quand on se voit aller avec nos enfants, c'est là qu'on se rend compte que on n'a pas tout intégré finalement. Parce que si on intègre parfaitement le fait qu'on est 100% responsable, eh bien, la sécurité n'est plus importante pour vous. La liberté va prôner surtout la liberté de choix, la liberté d'être. Et surtout, la liberté de créer. On crée toute notre réalité et on co-crée en gang. Et présentement, on est dans une période où on a extrêmement peur et on redonne notre pouvoir aux autorités. Et toute cette réflexion-là que j'ai eue avec mes enfants, c'est une réflexion où je me suis dit, c'est impressionnant à quel point faut que j'en parle. Et je pensais pas en parler aujourd'hui dans le podcast. J'avais 1 million d'autres choses à vous dire, mais c'est ça qui est sorti. Alors voilà. Donc, ouais, prendre responsabilité. Quand j'ai terminé la deuxième édition de l'Humania, j'ai refait la comptabilité du premier séminaire et du deuxième séminaire, et je me suis rendu compte que j'étais dans le trou, donc en perte, de 15 000 $. J'ai vécu un très très grand syndrome de l'imposteur. Aux trois personnes à qui j'en ai parlé, qui étaient des très bonnes amies, une m'a traité de money mindset coach fraud. L'autre m'a dit que plus personne ne voudrait travailler avec moi. Et l'autre m'a dit, Jen, fais juste leur écrire. Les filles vont comprendre. J'ai tellement pleuré, là. Parce que je savais pas comment j'allais verser la commission à mes conférencières. Je ne savais pas comment. Et là, on était en début juin. J'ai tellement eu une grande réponse traumatique. Mon système nerveux a été tellement activé que j'ai complètement figé. Puis je tiens à en parler ici parce que c'est sûrement quelque chose que vous avez peut-être expérimenté. Je sais que cette expérience-là de l'Imania a été là pour démolir mon ego et mon mental. Donc, à la mi-juin, je me suis assise avec moi-même et ma conscience. Mon mental, mon ego, mon cœur et mon âme ont fait un meeting. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mon ego m'a dit, dis juste aux gens que tu seras pas capable de payer. C'est tout. Puis c'est tout. Mon mental m'a dit, ben fais faillite. C'est pas compliqué, tu fais faillite, t'auras plus de dette. Mon cœur m'a dit, non, parle aux gens. Je suis sûre qu'ils vont être capables d'attendre. Puis mon âme, elle m'a dit, Geneviève, est-ce que tu me fais confiance? Puis j'ai décidé de faire confiance. Donc j'ai été vraiment un deux semaines dans une espèce d'état hyper léthargique, début juin, qui était une grande réponse au niveau de mon système nerveux. J'ai vraiment fait breakdown de mon système nerveux. Tous mes traumas m'ont revenu d'en face. Tout ce que j'avais mis en dessous du tapis, là. Tu sais, là, les trucs que vous savez qui vont vous revenir d'en face, mais que vous mettez en dessous du tapis, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que le 10 juin, je me suis dit, bon, Geneviève, là, faut que tu prennes action. Faut que tu trouves 15 000 piastres. Vraiment. Puis, ça me tentait pas de travailler. J'avais pas l'énergie pour travailler. Je voulais pas hustle. Je voulais pas travailler fort pour rembourser des gens. Je trouvais ça complètement stupide. Tu sais, il y a beaucoup de gens que leur mental leur aurait dit « Ok, fais un autre lancement, fait que là, tu vas pouvoir. » Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'annuler, en fait, de reporter le troisième Lumania qui était censé avoir lieu en juillet pour me permettre d'avoir l'espace nécessaire pour régler tout ça. Puis, le gouvernement me devait... En fait, j'avais décidé de refuser mes allocations familiales depuis un an et demi. Puis, en fait, quand tu les refuses, tu peux aller les rechercher par la suite. Et là, je me suis dit, bon, ils me doivent à peu près 15 000, fait que je vais prendre une chance d'aller demander mes allocs familiales au niveau du gouvernement fédéral. Et ça, ça a été vraiment un gros coup dur sur mon ego. Parce que j'étais donc fière de dire que je dépendais plus du gouvernement. Et là, je me suis dit, bon, ben gars, hein, c'est de l'argent que j'ai pas besoin de travailler. C'est de l'argent que normalement j'aurais reçu. Genre, ouvre ton contenant d'abondance, puis farme la gueule à ton ego, Jen. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais, c'est la première étape. Fait que j'appelle le gouvernement, je fais tous mes petits trucs. Super. Fait que là, j'ai posé une action, comme je dis aux filles. J'ai créé un contenant d'abondance. Je l'ai laissé là. J'ai dit, il est prêt là à recevoir mon 15 000. Il est là. Ensuite, j'ai fait une demande à la BDC, Futurpreneur, pour Femme et Sœur, je pense, pour avoir un prêt de 20 000 $. J'ai créé aussi un autre contenant. Fait que j'ai fait ces deux petites actions-là, sans aucune attente de résultat. Puis j'ai pris la décision. Puis juste après, Léo s'est brûlé. Et là, j'ai dit, OK, je vais écrire aux participantes, aux conférencières de l'Humania, pour leur dire que j'ai vécu un cuisant échec financier. J'avais mal calculé mes choses, j'ai pas été à un. J'ai engagé des gens qui étaient pas efficaces. J'ai pas réajusté le tir assez vite. L'Humania a été vraiment un bel apprentissage pour moi. Ça a été une vraiment belle collecte de données. Puis, ben des fois, les collectes de données, ben c'est des cuisants échecs financiers, puis c'est bien correct de même. Fait que j'ai écrit ce courriel aux filles. Je pensais mourir de l'intérieur. Les filles qui m'ont écrit, il y en a plein que j'ai même pas écouté leurs messages vocaux, ben j'avais trop peur qu'ils m'envoient chier. J'avais tellement peur de manger un char de merde! Mais finalement, ils m'envoyaient juste l'amour, les conférencières. Il y en a deux, trois qui ont été très blessés dans leur ego, mais c'est sur 25 conférencières, c'est pas très, très grave. Je suis capable d'en manger des coups de pelle, ça va. Puis j'ai pu voir aussi qui était dans le manque, observer ça, le manque, chez les autres. C'est intéressant. Tu sais, se faire harceler de courriel quand tu dis à quelqu'un, tu sais, je vis une situation financière précaire, je vais voir quand je vais pouvoir vous rembourser, mais vous serez tous remboursés. Puis que deux, trois personnes t'écrivent tout le temps pour savoir quand est-ce que tu vas les payer. Mais j'avais pas de date, je pouvais pas te dire une date. Et ça me fait beaucoup rire, parce que souvent, ces personnes-là, c'est des êtres extrêmement spirituels, mais ils sont tellement dans le manque qu'ils ont besoin de dates. Et là, ils deviennent dans leur mental, dans leur ego, tu sais. Là, tu te dis, hey, tu me fais chier en ce moment pour 150 $ quand moi, je dois 15 000 $. Tu sais, l'importance relative, là, c'est ça. Genre, calme ton bonbon. Alors, voilà, ça a été ça. J'ai dû gérer tout ça. Je l'ai très mal géré. Je l'assume totalement. J'étais vraiment en breakthrough de système nerveux. Puis, un matin, je me suis réveillée. Puis, j'avais 16 777 piastres dans mon compte de banque. Et je venais d'être approuvée pour le prêt à faire mes sorts la même journée. Tu sais, faire confiance. J'ai pas travaillé, là, pour le 16 000 $ qui est arrivé dans mon compte de banque. J'ai juste pilé sur mon ego et j'ai demandé des sous qui normalement m'auraient été versés par moi depuis un an. Et on a des allocations familiales au Québec. Puis c'était les allocations canadiennes. Puis, ce que je veux, le grand apprentissage que j'ai intégré là-dessus, c'est de faire des demandes claires, de créer des contenants, c'est très important. Mais après ça, c'est de s'arrêter à savoir comment et quand. Le comment et le quand, c'est notre ego puis notre mental qui en a besoin. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, dont moi, qui expérimentent le mal, manque, eh bien, quand on expérimente le manque, qu'est-ce qui arrive? On a besoin de savoir quand puis comment. Quand on a peur de manquer. On a donc même peur de manquer de quelque chose. C'est tellement puissant et impressionnant. Et malgré le fait que je devais autant d'argent aux conférencières, parce que mon système d'économie circulaire, il avait besoin d'un petit tune-up. C'est parfait comme ça! J'ai testé un modèle d'affaires. Je l'ai réajusté au séminaire 2 et là, il va être vraiment mieux au séminaire 3 qui va être à la fin septembre, début octobre. Le prochain Lumania qui va être magnifique. Et je tenais à vous en parler parce que je pense que ces grands moments-là où, tu sais, j'aurais pu démolir mon estime de moi. J'aurais pu croire que j'étais vraiment un money mindset coach fraud. J'aurais pu croire ce que ces gens-là m'ont dit, mais j'ai décidé de juste me dire, advienne que pourra. Je sais que mon intention était extrêmement magnifique quand j'ai lancé l'Humania, puis que tous ces petits ajustements-là faisaient partie de la game. Puis là, je suis en train de finaliser les paiements de toutes les conférencières, parce que l'autre petit côté qui est moins le fun, c'est que la majorité des conférencières, je paye leur commission via Virement Interact, mais j'ai un maximum de 2 000 $ par jour, 10 000 par semaine. Alors, c'est ça. C'est un petit peu complexe, les paiements. Et ça aussi, je vais l'améliorer considérablement. Et je trouve ça beau parce que ça m'a tellement préparée à ce qui s'en vient. Au vortex. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que les filles dans Harmonie, elles m'ont suivi là-dedans. Parce qu'à chaque lundi, je fais mon coaching dans Harmonie. Puis, chaque chose que je vis présentement sont tellement puissantes. Puis ma gang de Harmonie, elles, sont là aux premières loges. Et elles, j'ai une vulnérabilité et une intégrité dans nos appels qui me surprend moi-même. Et c'est des appels tellement puissants. Pour de vrai, si tu veux complètement changer ta relation avec l'argent, là, come on, viens en Harmonie. Je sais pas comment le dire autrement. Des fois, je me pose la question de comment vous montrer à quel point c'est puissant Harmonie. Je pense que je vais inviter des participantes ici dans le podcast juste pour qu'elles vous parlent de ça, parce que Harmonie, c'est pas une méthode, c'est pas une méthode, c'est pas une technique. Oh mon Dieu, un jet bleu juste devant moi. Wow. Ouais, Harmonie, c'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est pas du quick fix. C'est vraiment simplement de s'arrêter, d'observer, d'introspecter, de prendre conscience et de se sentir extrêmement soutenu. Parce que, tu sais, le lundi à 14h, heure de Montréal, c'est moi qui fais un coaching d'à peu près 30 minutes. Ensuite, il y a une espèce de Q&A, un moment où vous pouvez parler. Par la suite, le mardi matin, c'est Isabelle Posé qui fait un soin énergétique en lien avec ce qu'on a vécu la veille. Et le mercredi midi, c'est Marie-André, la grande rêveuse, qui fait un exercice de EFT tapping. Puis c'est vraiment une connexion à l'imaginaire. Et une fois par mois, on a Anna, la sage lunaire, qui vient dire l'astro du prochain mois à chaque pleine lune. Puis à chaque nouvelle lune, on a Maëve, artiste, qui vient faire un cercle créatif. Et c'est tellement, mais tellement puissant. Harmonie, c'est juste magnifique. Et ça, c'est un accompagnement pendant 12 mois. Parce que ça prend ça dans la vie. Se sentir soutenu. C'est là qu'on découvre et qu'on accepte de découvrir toutes nos facettes. Parce que c'est crissement challengeant d'être intègre. Vraiment. C'est ce que je me suis rendu compte. Ouais, puis là, le premier épisode du podcast qui va sortir vendredi, c'est un épisode avec Isabelle Nantel. Et on va vous parler du vortex. J'ai très très hâte de vous parler du vortex parce que pour moi, c'est vraiment le modèle d'affaires de l'Humania en version améliorée, optimisée, 2.0. Et on crée une communauté 2.0. Une communauté entrepreneuriale 2.0. C'est juste fucking puissant. Et je vous en parlerai pas là parce que ça prendrait 4 heures. Et là, mon épisode est quand même long. Et une autre magnifique collaboration, partenariat qui est arrivé dans ma vie. C'est le spa Eastman. Ça aussi, je vais vous en parler dans le prochain épisode solo. Je vais faire des conférences à chaque mois au spa Eastman, puis aussi des retraites. J'ai vraiment hâte de vous parler de cette collaboration qui est arrivée à moi comme ça. C'est juste magique. Je peux pas croire et je me pince à tous les jours que c'est ça ma vie. Je suis tellement reconnaissante là, remplie de gratitude. Ah, merci, merci, merci. Puis, souvent on oublie d'observer l'abondance autour de nous. Puis je me rends compte qu'on oublie aussi de faire des choses tellement simples. Puis plutôt que se faire une routine matinale de débile et de se taper sur la tête après, de se culpabiliser parce que vous oubliez de vous entraîner ou vous oubliez de faire votre journaling, votre méditation, à la place d'avoir une to-do list qui n'a pas de bon sens, là, prenez juste le temps d'aller dehors, marcher nu-pied, puis de juste vous rendre compte de toute l'abondance qu'il y a à l'extérieur, tu sais. À l'extérieur de votre petite prison dorée qui s'appelle votre maison. Prenez le temps d'observer la pluie sur votre visage, tu sais. D'observer le vent sur votre peau. D'observer la boue. Tu sais, de marcher dans la bouette, de marcher dans l'eau, dans le sable, nu-pied, dans le gazon, dans la terre, dans la roche. C'est tellement simple, mais tellement puissant. Qu'est-ce qu'on se complique la vie, là, à vouloir être spirituel? La spiritualité, là, c'est juste de sortir dehors puis de regarder ce qui vous entoure. C'est tout. Observez les éléments alentour de vous. Le soleil, les nuages, la pluie, le vent, le froid, le chaud, ce qui est piquant, ce qui pique. Est-ce que vous avez déjà observé un moustique, un maringouin qui vous pique? C'est quand même assez intéressant à regarder. Plutôt que juste vous remplir de mouscoles et de off, de chasse moustique. Tu sais, ils sont là pour quelque chose, ces petites bêtes-là. Faudrait peut-être les observer. Sur ce, je vous aime. Passez une magnifique journée. Puis on se dit à la semaine prochaine pour les épisodes du mercredi solo. Et le vendredi, ça va être des épisodes en duo. Bonne journée!